Notre société semble vouloir s'affranchir de mots et de concepts issus du monde religieux. Des mots qu'on considère comme dépassés, obsolètes ou négatifs, comme par exemple le mot « péché » ou encore le verbe « se repentir ». Pourtant, j'ai la conviction que le repentir bien compris est l'une des expériences les plus fécondes, les plus libératrices qu'on puisse vivre. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Et ça a aussi été celle du roi David. Je vous en parle dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Il est écrit. Je le disais en introduction, le péché a mauvaise presse aujourd'hui. On parlera plus facilement d'erreurs de parcours ou de jeunesse, de manquement à son devoir, éventuellement de fautes, voire de fautes graves. Mais péché, non, ça sonne trop fort, trop religieux, trop culpabilisant. Quant à se repentir, le mot est souvent connoté par le souvenir de la confession obligatoire ou des pénitences imposées. On le voit comme une expérience négative, humiliante, dans laquelle l'être humain perd toute estime de lui-même. En fait, c'est tout le contraire. Permettez-moi de partager avec vous ma première véritable expérience de repentance. J'étais encore un jeune adolescent et je vivais dans une famille chrétienne. Mes parents étaient des chrétiens convaincus. Ils avaient partagé leur foi, leur compréhension de la Bible avec mon frère et moi depuis notre tendre enfance. Aimer Dieu, aimer les autres, faire le bien, étudier la Bible, chercher à progresser à tout point de vue, ça faisait partie de notre éducation quotidienne. Chaque semaine, on allait ensemble à l'église et souvent, on mangeait sur place et on passait une bonne partie de la journée avec des amis. Aux yeux de mes parents, comme de mes amis de l'église, j'étais un bon petit gars, bien élevé, et qui, par-dessus le marché, connaissait bien la Bible. Ce qu'ils ne savaient pas, ni les uns ni les autres, c'est que le bon petit gars en question, en dehors de la maison et de l'église, vivait une vie pas très ordonnée. Le mensonge, le vol, la cigarette, la gloutonnerie, les revues pas très catholiques, tout ça faisait partie de mon quotidien ou presque. En d'autres mots, je vivais une double vie. Et comme je me faisais rarement prendre, tout semblait bien aller. J'avais bien de temps à autre de petits problèmes de conscience, mais j'avais vite fait de les reléguer au placard et de continuer à profiter des plaisirs de la vie avec les copains. Mais Dieu m'attendait au tournant. Je suis allé avec mes parents assister à un rassemblement chrétien qui s'étalait sur 3 jours. Et c'est là, dans ce centre des congrès dont je me souviens très bien, que j'ai été interpellé avec force pour la première fois. D'abord, j'ai été témoin d'un véritable miracle que je ne pouvais pas nier. Ce serait trop long d'expliquer en détail ce dont il s'agissait, mais c'était vraiment frappant. Je ne pouvais que constater que Dieu existait, qu'il était puissant, qu'il pouvait répondre aux prières sincères. Mais surtout, ce qui m'a interpellé, ce sont les paroles d'un prédicateur, qui expliquait avec beaucoup de sincérité et de simplicité ce que signifiait pour lui l'amour de Dieu, la vie et la mort du Christ, la vie chrétienne authentique. En l'écoutant, j'avais l'impression d'entendre Dieu me parler et me dire « Tu vois, lui là, il me connaît, il vit avec moi, il est authentique. Mais toi ?» En quelques instants, j'ai pris conscience que Dieu connaissait toute ma vie, qu'il voyait ma duplicité, mon manque de rectitude, tous mes faux-semblants. Mais j'ai aussi perçu qu'il m'aimait profondément, qu'il voulait que je vive un changement radical. Dans les jours qui ont suivi, je me souviens avoir ressenti de plus en plus le désir de ne plus mener une vie double, d'être fidèle à ma conscience, fidèle à la volonté de Dieu. C'était une expérience à la fois douloureuse et libératrice. Je commençais seulement à vivre l'expérience de la repentance telle qu'elle est évoquée par l'apôtre Paul. Je lis avec vous dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 9 et 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Certains pensent qu'ils n'ont pas à se repentir de quoi que ce soit. Vous avez entendu comme moi des expressions du genre « Je n'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai la conscience tranquille. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai fait de mal à personne. » Penser qu'on n'a pas à se repentir de quoi que ce soit, c'est soit être très aveugle sur soi-même, soit terriblement orgueilleux, ou peut-être les deux à la fois. Quiconque est un tant soit peu attentif à sa conscience sait qu'il y a souvent un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, qu'il y a parfois une dissonance profonde entre ce qu'on sait qu'on devrait penser, dire ou faire, et ce qu'on vit en réalité. Et si notre conscience est éclairée par les paroles de la Bible, si on prend pour modèle la vie et les enseignements du Christ, alors le décalage est encore plus marquant. Il devient impossible de dire « je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas à me repentir de quoi que ce soit ». Au contraire, on va pousser le cri de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 7. L'apôtre Paul qui écrit ceci. « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et un peu plus loin, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette douleur intérieure, ce sentiment de désespoir, est une étape nécessaire et essentielle vers le renouveau de l'âme et le changement de vie. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Se repentir, ce n'est pas se flageller sans cesse, se morfondre, toujours dans la tristesse à cause de notre nature faible. Non, se repentir, au sens biblique, c'est tout autre chose. Le verbe hébreu, qu'on traduit généralement par « se repentir » ou « se convertir » dans l'Ancien Testament, signifie littéralement « revenir », « faire demi-tour », « changer de direction ». Quant aux mots grecs du Nouveau Testament, qui sont traduits par « se repentir » ou « la repentance », ils traduisent l'idée de « changer d'avis », « changer de pensée », « changer d'orientation ». En fait, la repentance, c'est un changement de vie, que la Tob traduit « convertissez-vous ». La Bible en français courant, « changer de vie ». Et la Nouvelle Bible Second, « changer radicalement ». Pour mieux comprendre le changement profond que représente l'expérience de la repentance, je vous propose de relire une partie du psaume 51, écrit par le roi David. Les deux premiers versets rappellent le contexte historique dans lequel David a écrit cette prière. Au chef de cœur, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, je la résume. Le roi David a commis un adultère avec Bathsheba, la femme d'un de ses officiers qui est sur le champ de bataille. Comme elle est enceinte, David fait revenir son mari à Jérusalem pour essayer de lui faire endosser en quelque sorte la paternité de l'enfant. Mais Uri refuse de rentrer chez lui par solidarité avec ses compagnons qui sont à la guerre. Alors David fait placer Uri au plus fort du combat pour qu'il meure. Et c'est ce qui arrive. Le mari décédé, David recueille la veuve et l'épouse. Personne n'est dupe dans cette affaire, et encore moins Dieu qui envoie le prophète Nathan auprès de David pour lui exposer ses péchés. Adultère, dissimulation et mensonge, meurtre par procuration. David, qui a cherché à fuir sa conscience pendant tout ce temps, craque alors complètement et reconnaît ses fautes. Et c'est peu de temps après qu'il compose le psaume 51 que je lis maintenant. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les os que tu as brisés seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On sent dans cette prière toute l'ardeur d'un homme accablé par sa culpabilité et profondément repentant. Un homme qui cherche auprès de Dieu la grâce et la force qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs. Relevez avec moi plusieurs éléments qui caractérisent cette vraie repentance de David. D'abord, la prise de conscience de son péché, ou plutôt de ses péchés. David a réalisé pleinement la gravité de ses actes. Il a pu appeler le péché par son nom et réaliser le très grand mal qu'il a fait. Non pas qu'il en était vraiment inconscient avant, mais il faisait ce que nous faisons souvent quand notre conscience nous travaille. Il trichait. La première étape du repentir véritable consiste à cesser de tricher et à reconnaître, sans chercher à se justifier, la gravité des actions qu'on a commises. Les péchés, quels qu'ils soient, sont des actes qui déshonorent Dieu, font du mal aux autres et à nous-mêmes. Mais se repentir, ce n'est pas seulement reconnaître qu'on a commis un péché ou des péchés spécifiques. C'est aussi prendre conscience que nous sommes pécheur par nature. C'est ce que fait le roi David au verset 7 du psaume 51 quand il dit « Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'enfants d'Adam et Ève, nous sommes attirés par le bien, mais que nous avons aussi une propension au mal. Le péché fait en quelque sorte partie de notre nature. Il nous colle à la peau. Et nous avons besoin non seulement d'être pardonnés, mais aussi délivrés, transformés. Se repentir, c'est reconnaître ça. Quand j'ai vécu ma première vraie expérience de repentance à l'adolescence, j'ai réalisé que non seulement j'avais menti à plusieurs reprises, mais que j'avais une propension au mensonge et un grand besoin d'en être délivré. Il a fallu que je le reconnaisse pour pouvoir aller plus loin. Avec ces prises de conscience vient forcément le regret et la douleur d'avoir péché. Une expérience profonde sur le plan émotionnel. David a sans doute vécu l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. C'est vrai, le chemin de la libération commence dans la souffrance. Tout repentir véritable engendre d'abord un regret profond, une douleur intérieure. Le Saint-Esprit nous humilie profondément. Mais cette tristesse, c'est le chemin du pardon et de la liberté. C'est la marque d'une relation qui se construit ou qui se reconstruit avec Dieu lui-même. Je veux souligner ici que si le regret du péché est nécessaire et si le souvenir de nos fautes doit nous garder dans l'humilité tout au long de notre vie, Dieu ne veut pas que nous soyons sans cesse dans la tristesse. Au contraire, comme on va le voir, cette tristesse suscitée par Dieu mène à la paix et à la joie. Pour y parvenir, il faut passer à l'étape suivante. La confession sincère et la demande de pardon. Voici comment le fait David dans le psaume 51, versets 3 et 4. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. David a fait la démarche fondamentale à laquelle Dieu l'appelait. Il s'est tourné vers son Créateur pour confesser son péché et implorer le pardon d'en haut. Il a osé croire que malgré l'horreur de ses fautes, son Père du ciel avait un amour assez grand pour l'accueillir. Il s'est approché de Dieu pour lui dire en toute honnêteté ce dont il avait pris conscience. Cette démarche de confession et de demande de pardon n'a pas pour but d'informer Dieu, évidemment. Il nous connaît jusque dans l'intimité. Mais elle lui ouvre la porte de nos vies. Elle nous met dans les conditions pour recevoir sa grâce. Ici, je vais lire quelques lignes du très beau livre « La voie de l'espérance ». Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres, enfin, sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés mêmes dont on s'est rendu coupable. Dans le cas de David, il devait y avoir une confession publique. Et cette confession publique, c'est le psaume 51 que je lis avec vous, qui a été connu par le peuple d'Israël tout entier. Après avoir ouvert son cœur à Dieu, confessé publiquement ses fautes, le roi David va faire un acte de foi qui fait partie intégrante de la repentance. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. David ose affirmer que Dieu ne repousse pas celui qui vient vers lui d'un cœur brisé. Autrement dit, David croit que Dieu peut et va le pardonner. Quand on sait ce que ce roi d'Israël vient de commettre, on pourrait penser que c'est de la prétention. Mais en réalité, David sait qu'il ne mérite rien, que son cas est désespéré à vue humaine et que sa seule planche de salut, c'est la grâce de Dieu. Il sait que cette grâce est offerte à tout homme, à toute femme sincère qui vient à lui humblement et avec confiance. Comme David, faisons confiance à Dieu. Bien sûr, nous n'avons aucun mérite devant lui, mais il nous aime. Le Christ a donné sa vie pour nous. Il a porté nos fautes. Il est ressuscité, il intercède pour nous. Ne laissez pas Satan vous accuser. Ne laissez pas les pensées de votre culpabilité vous habiter sans cesse et vous décourager. Tournez-vous vers Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 1er, nous fait cette belle promesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Recevoir le pardon de Dieu ne veut pas dire pour autant que toutes les conséquences de nos fautes soient toujours éliminées. Il y a bien des circonstances où ces conséquences nous suivent, parfois toute notre vie. Ça ne signifie pas que Dieu ne nous ait pas pardonné, mais il ne peut pas et ne veut pas, d'un coup de baguette magique, effacer toute conséquence. Le roi David, par exemple, a connu une fin de règne très tourmentée. Son propre fils s'est rebellé contre lui. Une partie du peuple a perdu confiance en son roi. Ce sont quelques conséquences du péché de David envers Uri et Bathsheba. Le fait que David l'ait accepté avec humilité est la preuve qu'il s'est vraiment repenti. Il écrit « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Celui qui refuse de subir des conséquences à son péché sous prétexte que Dieu lui pardonne et devrait tout arranger, celui-là prouve qu'il n'est pas passé par un véritable repentir. Il cherche plus à utiliser Dieu qu'à le servir. Tout récemment, je parlais avec un de nos auditeurs qui se trouve actuellement en prison. En passant, il y en a beaucoup qui nous écoutent depuis les centres de détention. Cet homme me disait combien son expérience difficile dans cette prison lui semblait voulue par Dieu pour l'aider à mieux comprendre à la fois la gravité de ses fautes et la puissance divine pour pardonner et pour changer sa vie. Voilà le signe d'une vraie repentance. Parce que le pardon de Dieu est un processus dynamique. Quand Dieu nous pardonne, il nous change. La prière de David montre que Dieu l'avait touché au point qu'il ait un désir profond de changer de vie. Il aspirait à une vie nouvelle, débarrassée du mal et du péché. Il écrit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Certains disent que le pardon offert gratuitement par Dieu est un pardon trop facile. Mais c'est ne rien comprendre à la véritable repentance et au pardon divin. Quand on a compris et accepté l'immense cadeau de Dieu, notre vie est transformée. Ça se traduit dans la vie pratique au quotidien. C'est le point de départ d'un changement de cœur et de comportement. Et plus encore qu'un changement de comportement, cette démarche de la repentance vécue sincèrement sous l'influence du Saint-Esprit nous permet de vivre une relation restaurée avec Dieu. Et souvent aussi une relation restaurée avec les autres. Pardonnés, réconciliés, adoptés par notre Père céleste, nous trouvons la paix et la joie auxquelles notre cœur aspire. Dieu nous rend la joie de son salut, pour reprendre les termes du roi David dans le psaume 51. Et il devient possible de dire avec David, « Ma langue célébrera ta miséricorde, ma bouche publiera tes louanges. » Je ne peux que remercier Dieu de m'avoir profondément remis en question dès ma jeunesse, de m'avoir fait passer par les pleurs de la repentance pour finalement trouver la joie du pardon, de la vie nouvelle et d'une relation personnelle avec lui. Et croyez-moi, ce n'était que le début. La repentance n'est pas quelque chose d'unique qu'on vit au début de notre vie spirituelle, non. C'est une expérience souvent nécessaire. Un état d'esprit d'humilité et de foi qui doit caractériser notre cheminement avec Dieu jour après jour. Père du ciel, je veux te remercier personnellement d'avoir pu faire cette expérience, de te rencontrer, comprendre ton amour, prendre conscience de mon péché, de vivre une vie nouvelle avec toi. Ma prière, c'est que beaucoup parmi ceux qui nous écoutent puissent vivre aussi cette expérience, et que tu nous gardes dans l'humilité tout au long de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour France.
Bonjour Rémi.
Content de te retrouver aujourd'hui.
Pareillement.
Avec Entre les mains, un petit livre qu'on a déjà proposé souvent, mais qu'encore aujourd'hui, on sentait qu'on devait proposer à nos auditeurs.
Certainement. Avec le sujet d'aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté. C'est évidemment La voix de l'espérance. C'est vraiment un beau petit livre qui parle de la vie nouvelle en Jésus. Donc, il y a 13 chapitres en tout, mais il y en a deux en particulier qui traitent effectivement de la confession, de la repentance.
Donc, en lien avec le sujet d'aujourd'hui,
avec le sujet
tout spécialement.
D'aujourd'hui. Oui, puis c'est un beau petit livre qui se lit très, très bien, qui fait beaucoup de bien, très édifiant. Alors, on l'offre à 5 $, on additionne les frais de poste. Mais je tiens à préciser que c'est possible aussi de l'avoir en format PDF. Alors, si les gens vont sur notre site Internet, ilestécrit.tv, en allant soit sur la page du produit ou sur la page de l'émission d'aujourd'hui, ils vont retrouver le lien pour pouvoir le télécharger gratuitement.
Voilà, La voix de l'espérance, un petit livre, mais un contenu extraordinaire que je recommande, que nous recommandons à tous nos auditeurs pour seulement 5 $ ou encore en format PDF pour ceux qui voudraient sur le site.
Voilà.
Et puis, on voulait aujourd'hui aussi rappeler à nos auditeurs qu'il est écrit « Continue à promouvoir la participation à des petits groupes de partage ».
Oui, et je dirais que c'est un beau succès. On a des auditeurs de partout au Québec qui nous écrivent souvent, qui nous demandent « Est-ce qu'il y a un petit groupe dans ma région? » En fait, nos petits groupes, on le sait bien, c'est un partage fraternel et d'études bibliques ensemble. Donc, c'est des petits groupes, ça peut être entre 6, 8, 10 personnes maximum. Donc, il y a beaucoup de simplicité, de partage. On étudie la parole en échangeant et en réfléchissant ensemble.
Bon, ces dernières années, ça s'est beaucoup passé sur Zoom. Hein?
Bon, là, c'est certain qu'avec la pandémie, ça a tout changé, mais on apprécie, la technologie nous a permis de continuer. Et je dirais aussi que cette pandémie nous a montré qu'on peut réunir des gens qui sont isolés un petit peu partout au Québec.
C'est intéressant parce que justement, il y a un petit groupe qui est né tout récemment, tu vas nous en parler.
Oui. Oui, c'est le petit groupe interrégional. On lui a donné le nom de interrégional. Donc, on a des gens, que ce soit de Val-d'Or, de Saint-Georges-de-Beauce, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay, des gens de partout qu'on réunit sur Zoom. Donc, s'il y a des gens parmi nos auditeurs qui sont intéressés à se joindre à nous, mais qui n'hésitent pas, qui nous appellent, puis on va vous diriger dans le petit groupe qui va correspondre à vos besoins et à votre région.
Puis on peut quand même dire, France, que pour ceux que Zoom n'inspire pas beaucoup, et on peut au bout d'un moment avoir aussi un petit peu...
présentiel.
Une écœurantite, si on peut dire.
une zoomite.
Une zoomite, voilà, c'est ça. On veut et on va continuer à développer des petits groupes en présentiel.
Oui, absolument. Puis on a hâte de reprendre parce qu'en présentiel, il y a vraiment une atmosphère différente autour d'une table ou dans un salon. Donc, on fait ça dans les maisons. C'est vraiment quelque chose qui est très édifiant, qui fait beaucoup de bien. Donc, voilà. Et
il y en a à différents endroits dans la province.
Oui, il y a beaucoup de... Oui, absolument. En ce moment, on en a vraiment 13. On en a 13 en ce moment.
Qui fonctionnent pour l'instant.
Qui fonctionnent.
Et bientôt d'autres groupes.
Oui, on l'espère.
Donc, cordiale invitation à tous pour ceux qui veulent rejoindre un petit groupe de partage, il est écrit.
Absolument.
Et puis, si vous voulez obtenir votre exemplaire de La Voix de l'Espérance, eh bien, voici maintenant nos coordonnées.
Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestecrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. En attendant de vous retrouver, je vous propose cette semaine de relire et de méditer ce très beau psaume 51 qui était l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Parce que souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »